Comment apprendre une langue soi-même? Ce que toute personne devrait savoir avant de s'immiscer dans ce merveilleux monde. Nous tous, ou la plupart, rêvons de parler plusieurs langues, de pouvoir communiquer dans n'importe quelle partie du monde et de pouvoir comprendre plein de livres et de films. Le problème, c'est que depuis que nous sommes tout petits, on nous a fait croire plusieurs concepts qui peuvent s'avérer être faux. Par exemple, que l'on peut apprendre une langue uniquement en se trouvant dans le pays en question, que nous ne sommes pas tous faits pour être polyglottes et qu'en somme, peu de personnes parviennent à parler deux langues au plus, que l'on doit dépenser beaucoup d'argent en achetant des livres de grammaire ou en s'offrant des cours dans des écoles et autres instituts. Laisse-moi te dire que tous les concepts ci-dessus ne sont tout de même pas totalement faux. C'est un chemin que tu peux emprunter pour apprendre une langue, mais ce n'est pas celui que je te recommande. Je crois que tout ce que nous devrions savoir, c'est que chaque personne est capable de le faire. Je ne parle ici ni des génies, ni des prodiges. Il s'agit plutôt d'un compromis avec toi-même, de discipline pour suivre ta méthode, nous en parlerons plus tard, et de motivation, savoir pourquoi tu fais cela. Jusqu'à là, tout va bien. Je t'ai dit que tout le monde pouvait atteindre cet objectif, mais peut-être j'ai oublié de te dire que toute personne investie, disciplinée et motivée peut atteindre son but. Si tu penses qu'avec 5 minutes par jour, tu vas pouvoir défaire et rétablir les changements structurels et fonctionnels dans ton cerveau, laisse-moi te dire que ça va être très complexe, voire impossible. Non seulement ce n'est pas possible, mais ta motivation sera au point mort et tu abandonneras. Il ne s'agit ni de 5 minutes ni de 10 heures par jour. Ce que je veux te dire, et tu devrais prendre des notes et les avoir toujours sous la main, c'est que la langue que tu désires apprendre doit faire partie de ta vie, chaque jour. Comment faire? Au fur et à mesure, je te donnerai quelques pratiques journalières qui ont très bien fonctionné pour moi et aussi qui sont recommandées par des célèbres polyglottes. Par exemple, Steve Kaufman, auteur de The Way of the Linguist. L'écoute, la lecture, l'écriture, la conversation. L'ordre de ces quatre piliers n'est pas dû au hasard, mais bien à une certaine hiérarchie. Nous allons rentrer dans les détails pour les deux premiers, puis nous verrons les principaux axes des deux derniers. L'écoute, c'est l'activité la plus facile de toutes, et nous pouvons trouver deux types d'écoute. L'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive, c'est le type d'écoute que tu vas appliquer le plus. L'écoute passive ne requiert pas une grande concentration et tu peux la faire pendant ton temps mort. Dans ce cas, le contenu rentre dans le cerveau, c'est une répétition d'un même contenu et ce, plusieurs fois. L'objectif de cette écoute est d'habituer ton cerveau à une nouvelle gamme de sons et d'expressions. Souviens-toi que faire des changements dans son cerveau n'est pas chose facile. Tout processus biologique se trouve être d'une grande complexité. Le seul ou meilleur moyen de l'intégrer est de répéter ce même processus. Par exemple, tu as déjà su rechanter des chansons par cœur sans pour autant étudier les paroles? Bon, de manière inconsciente et grâce aux répétitions fréquentes, ton cerveau a acquis ce contenu. Avec les langues, c'est la même chose. Ce type d'écoute est la solution à l'excuse typique « je n'ai pas le temps ». Moi, je dirais que cette phrase est incomplète. Ce serait plutôt « je n'ai pas le temps, virgule, pour cela ». Car le plus souvent, ces personnes ont le temps de regarder leurs programmes de télé favoris, leurs séries et autres films. Mais attention, ceci ce n'est pas un reproche. Je veux seulement te montrer que tout dépend de comment tu organises ton temps et de bien connaître tes priorités. Quels sont les temps morts? Durant les sports, dans les transports, métro, train, pendant que tu cuisines, pendant que tu fais le ménage, etc. Pour cela, il est très important de préparer en avance le contenu que tu vas écouter. De manière à ce qu'au moment de commencer, il ne te reste qu'à prendre tes écouteurs et mettre play sur ton podcast préféré. Si nous savons que nous avons 10 minutes réservées à l'écoute, nous ne pouvons pas nous permettre de les gâcher à chercher le contenu en question. L'idée est de ne pas créer d'obstacles qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. L'écoute active. Il s'agit de la même pratique dans le sens que le contenu que tu utilises peut être le même que lors de l'écoute passive. Seulement ici, on y dédie réellement du temps. Nous nous installons dans notre bibliothèque au bureau, où il est possible de travailler, nous mettons nos écouteurs et nous portons une attention active à l'audio. Les mots utilisés, les structures des phrases, le ton utilisé et nous faisons une analyse profonde de l'audio. Au final, il s'agit d'écouter en pleine conscience. La combinaison de ces deux pratiques devient l'outil le plus puissant pour apprendre du nouveau vocabulaire, retenir des phrases et acclimater notre cerveau à cette nouvelle gamme de sons. Pour ma part, j'ai écouté le même podcast plus de 50 fois, de manière à les savoir par cœur dans son entièreté, comprenant des mots que je ne savais même pas écrire, mais que je savais utiliser dans mes conversations, car ils faisaient déjà partie de mon vocabulaire. Type de contenu à écouter. Ceci est un aspect clé et le principal responsable de ta progression dans l'apprentissage. Le grand problème aujourd'hui, c'est que l'on trouve beaucoup de contenu pour les étudiants de niveau débutant et avancé. Pour les débutants, il existe des vidéos sur YouTube qui expliquent la conjugaison des verbes principaux, le temps passé, présent, futur, les pronoms, etc. Des dialogues simples et peu difficiles à apprendre. Pour les avancés, il existe Netflix, la radio, la télévision, etc. Le grand manque de contenu concerne les étudiants d'un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un matériel intéressant avec les sous-titres ou les transcriptions et une utilisation de langage adapté avec un débit pas trop rapide. Nous avons tous des thèmes que nous aimons plus que d'autres, par exemple le sport, les voyages, les histoires de vie, la nature, la santé, les sciences. Je te dis ceci, mais rien ne t'oblige à écouter et à lire des choses que tu n'écoutes ni lis dans ta langue maternelle. Personnellement, je n'ai jamais lu les codes civils en espagnol, c'est ma langue maternelle. Encore moins dans une autre langue. Avec tout cela, je veux te dire que tu dois travailler avec un matériel qui te passionne réellement, que tu as envie d'apprendre et auquel tu as envie d'y dédier du temps. De cette manière, tu feras d'une pierre deux coups. Car d'un côté, nous nous informons à propos d'une thématique qui génère en nous du plaisir, et d'un autre côté, nous sommes indirectement ou directement selon l'étape de ton apprentissage, nourris de vocabulaire dans la langue. La plupart du temps, nous parvenons à trouver un contenu qu'on aime réellement, mais il s'avère être d'un niveau avancé et on ne peut pas le comprendre, ou il est d'un niveau accessible pour nous, mais ne possède pas de sous-titres ou de transcriptions. Précédemment, nous avons parlé de la qualité qu'il devait avoir une personne au moment de commencer sur le chemin de l'acquisition de langue. Nous avions dit qu'elle devait être engagée et motivée par son but et maintenir ses deux états sur la durée grâce à la discipline. D'un autre côté, nous avons les qualités que doit avoir le matériel d'étude. Ici, nous avons mentionné que le grand défi est de trouver du contenu intermédiaire, c'est-à-dire ni des dessins animés, ni de vapeur présidentielle. L'étape intermédiaire est la plus longue et frustrante. Parce que nous avons une idée générale de la langue, nous connaissons les mots principaux, mais on n'est pas capable d'avoir une conversation fluide avec une autre personne. Entre autres, il s'agit de l'étape où nous croyons connaître la langue jusqu'à ce que nous soyons confrontés face à un natif ou une native. Ce n'est pas un hasard qu'à cette étape-là, la plupart des gens abandonnent. Déjà que le taux d'apprentissage est très bas par rapport à l'étape initiale, nous avons donc la sensation de ne pas avancer. Comme nous le savons sur les documents ci-dessus, dans les étapes débutantes, nous passons de ne rien connaître à au moins avoir une idée du fonctionnement de la langue. Jusqu'à là, tu n'es pas encore capable de comprendre ni de parler. Durant l'étape avancée, il nous reste encore beaucoup à apprendre, mais ce sont surtout des détails qui nous font ressembler plus un natif. Cependant, nous sommes capables de comprendre des vidéos sans sous-titres, d'avoir des conversations variées et de rédiger des textes sans grande difficulté. Au contraire, l'étape médium est une étape clé et tu dois pouvoir la dépasser pour trouver cette sensation incomparable de parler avec des personnes natives et te sentir relativement à l'aise avec la langue. Pour pouvoir dépasser cette étape, tu dois accepter tes erreurs, laisser l'orgueil de côté, profiter de chaque opportunité pour pratiquer la langue. Accepter tes erreurs. C'est un fait que tu vas te tromper. Ainsi, tu as des options. Ne pas accepter tes erreurs, te frustrer et abandonner. Facile. Les accepter et les transformer en une nouvelle opportunité pour apprendre. Laisse-moi te raconter que si je dois faire une compilation de mes meilleures anecdotes, je m'amuse à dire que la majeure partie sont dues aux erreurs que j'ai faites en parlant avec des natifs. Laisser l'orgueil de côté. Ce point est facile à dire et complexe à appliquer. Nous pouvons l'aborder depuis plusieurs perspectives. Mais le plus important, c'est de ne rien prendre de manière personnelle. Il va t'arriver de parler ou essayer de parler avec des personnes qui aiment corriger à mesure que tu t'exprimes. Ce qui fait que la conversation perd sa fluidité. Déjà que tu es interrompu à haute fréquence, et rapidement tu déclenches les circuits de stress, de nervosité, et il y a un grand blanc dans ton esprit. La conversation est terminée. Laisse-moi te dire que la majorité des personnes qui font cela le font gentiment pour t'aider dans ton processus sans savoir que ça n'apporte rien. Ne le prends pas mal. Alors, avant une situation comme celle-ci, tu dois accepter les corrections, rire dans le bon sens avec l'autre personne et lui demander si elle peut intervenir quand tu fais des erreurs très grossières. Disons qu'il pourrait provoquer des moments réellement gênants. Explique-lui que tu fais tes premiers pas dans la langue et que ton objectif pour le moment est seulement de faire passer un message. Après, tu auras le temps pour te perfectionner. C'est une autre étape pour laquelle tu nécessiteras beaucoup d'heures d'immersion au DIN+. Profitez de chaque opportunité pour pratiquer la langue. De manière générale, les personnes plus extraverties rencontrent moins de difficultés pour apprendre une langue que les plus introverties. C'est pourquoi ils transforment chaque moment de dialogue en une opportunité d'apprentissage. Tu verras quelles sont les parties, les structures qui te posent le plus de problèmes pour t'exprimer, de manière à ce que chaque dialogue soit une nouvelle opportunité de te corriger et d'améliorer ton vocabulaire et ta syntaxe. Je me souviens, quand j'ai fait mes premières pas en français, un de mes grands moments de dialogue était dans le métro. J'avais une idée très claire de là où je devais aller. Cependant, je profitais de cette situation pour parler avec les personnes en leur demandant s'ils connaissaient la destination et comment je devais y aller. C'est une bonne manière d'apprendre à formuler des questions et en écoutant les réponses de l'autre, tu pourras retenir certaines structures et les utiliser dans des situations futures. Bien évidemment que je notais tout ce que je retenais juste après avoir terminé la discussion. Il convient de souligner qu'il existe d'autres techniques pour rompre la glace, qui sont demander l'air même si tu la connais et demander une cigarette ou du feu même si tu ne fumes pas. Tout dépend de toi. Je veux te faire comprendre qu'est-ce qui pouvait être un trajet de 10 minutes en silence, en écoutant de la musique ou en lisant, tout ça peut être fait à un autre moment, se transforme en une situation merveilleuse d'apprentissage et de rencontre. Il est clair que cela arrive quand tu te trouves entouré de personnes qui parlent cette langue. Si ce n'est pas le cas, tu peux utiliser des applications comme Tandem, Italki, Preply qui te permettent de créer la même atmosphère, mais virtuellement. Lecture. Dans la partie sur l'écoute, je t'ai dit qu'il y avait des phrases et des expressions que je n'avais aucune idée de comment les écrire, cependant, j'étais capable de les employer quotidiennement. La lecture est le second outil, l'un des plus efficaces, car ton cerveau commence à voir à l'écrit ce qu'auparavant tu entendais, et cela renforce la connexion neuronale dans le cerveau, de façon à ce que ces mots restent gravés et plus intensément que ceux que tu as seulement écoutés. Cela dit, il est clair qu'un mot, une phrase qui a été écoutée dans un podcast, puis ensuite lue et écrit, et enfin employée dans des conversations, ce mot fait déjà partie de ton vocabulaire. Mais il est possible qu'à certains moments, tu ne te souviens pas de ces mots. Souviens-toi que le cerveau est une machine à apprendre, et la seule façon qu'il a de le faire est en oubliant, en réemployant et en récupérant du contenu. Un autre conseil lorsque tu lis, et de ne pas chercher dans le dictionnaire tous les mots que tu ne connais pas. En premier, fais une lecture générale, en essayant de capter l'idée principale et en te centrant sur ce que tu connais. Après, tu verras qu'il y a des mots qui se répètent plus que d'autres, ce qui te donne un indice sur ce qui est vraiment important à connaître. À ce moment-là, tu pourras l'étudier, mais avant de chercher sa signification, c'est bien d'avoir au moins 5 répétitions de ces mots, ce qui te donne une idée des différents contextes dans lesquels tu peux les rencontrer. Écriture et conversation. Tout le monde souhaite parler le plus vite, ce qui n'est pas si mal, mais cela peut devenir complexe lorsque nous n'avons pas suffisamment de vocabulaire. C'est pour cela qu'il me paraît intelligent, premièrement, de se construire une bonne base avec l'écoute et la lecture, les deux pratiques les plus faciles et efficaces, pour pouvoir après développer la capacité de rédiger et de parler. L'écriture. Cela n'a jamais fonctionné pour moi, étant débutant intermédiaire. La méthode basique de raconter ta journée, tes objectifs, tes vacances, ce que tu fais en ce moment, etc. Je l'ai essayé, hein, mais à nouveau, n'ayant pas suffisamment d'expérience avec la langue, après avoir écrit 2 lignes, je ne savais plus quoi mettre. Le résultat, tout le monde le connaît. Stress, frustration, fin de l'activité. Je ne veux pas dire que le journaling ne sert à rien. Du fait, je le fais aujourd'hui, chaque jour, mais il doit se faire au moment approprié. En contrepartie, ce que je faisais, c'était d'écrire les parties que j'aimais le plus dans les podcasts que non seulement j'avais écouté, mais dont j'avais lu la transcription. De façon à ce qu'un même podcast, non seulement je l'avais écouté plus de 10 fois, mais de plus, je l'avais lu et j'avais écrit certaines parties. Cette pratique est très efficace pour apprendre et retenir du vocabulaire. Conversation. Sois authentique et simple. Ne t'embête pas avec des phrases complexes. Au début, c'est sujet, verbe, complément. Profite du moment et ne pense pas au subjonctif ou je sais pas quoi. Dis la première chose qui vient à l'esprit. Ose, trompe-toi, apprends.